La lutherie se développe très très vite, évidemment. Bah, au début des années 80, je pense que ça reste encore beaucoup, beaucoup marqué par. C'est encore le studio analogique. Hein, bon, il y a les synthétiseurs qui vont paraître, par exemple, le DX7 apparaît en 1982. Bon, ça, c'est une révolution, évidemment. Parce que c'est tout à coup, on a finalement un ensemble d'informations qui se retrouvent dans une petite boîte, et puis tout ça contrôlé par 4-5 boutons. Et donc, tout ça numérisé. En fait, c'était aussi révolutionnaire, c'était aussi important que le passage de l'époque où les studios électroniques étaient constitués d'une batterie d'appareils issus des laboratoires de physique acoustique, le passage de ça à l'invention du synthétiseur analogique, le premier Moog, qui, d'une certaine façon, dans une boîte, résume tout ça. Puis on y ajoute quoi? On y ajoute un clavier qui, bien sûr, permet de populariser l'affaire, puis de faire en sorte que les groupes pop s'en emparent. Donc, c'est le développement de la lutherie électronique analogique du synthétiseur. Mais quand le DX7 apparaît, c'est un autre pas qui est encore plus important, finalement, parce qu'on se débarrasse de tous les câblages, de tout ce qui était contrôle à boutons, très, très aléatoire, finalement, là, très douteux, mais en même temps très riche, très beau aussi, là. Mais on arrive avec un appareil entièrement numérique, finalement, donc on contrôle des datas. Mais c'est sûr que ça a entraîné déjà une évolution importante. Là. Bon, il y a une chier de musique à la plupart du temps imbuvable, là. Musique algorithmique encore. Bon, le son fameux son DX7 typique de l'époque, là, ça fait des musiques absolument imbuvables par ailleurs. C'est un point marquant dans l'évolution de la technologie, c'est évident. Là. C'est le début du numérique, en fait. T'sais. Puis ce qui a accentué la chose, évidemment, ensuite, ça a été le MIDI. Dire le fait que cet appareil, puis les autres qui sont apparus sur le commerce. Il y en avait eu d'autres avant déjà, là. Il y avait eu des hybrides, puis il y avait eu des monstres aussi, là, comme le disque-clavier, ces choses-là, qui étaient des immenses machines à 100 000 $, là. Donc, on allait vers le numérique. Moi, je me souviens d'avoir dit, début des années 80, à mes étudiants qu'un jour, le studio serait une petite boîte noire. Ben, c'est ça. Elle est pas noire, elle est argent, mais c'est ça, le studio, tu sais. Puis évidemment, l'ordinateur qui est arrivé, qui était très gauche au début, mais via le MIDI, moi, mes premiers ordinateurs, c'était des Atari. C'était 8 megs, je pense, même pas, 2 megs. Mais c'était MIDI, puis c'était génial, tu sais, on pouvait tout à coup contrôler l'information musicale de manière abstraite. C'est ça que ça amène, finalement, comme changement majeur par rapport au travail de bande. Parce que le travail de bande, c'est un travail artisanal, hein, où je manipule le son, je lui touche, en somme, là, puis je veux mon son à l'envers, puis je prends ma bande, je la retourne. C'est physique aussi, évidemment, je suis toujours debout, il faut que c'est compliqué, là, tu sais, puis il y a une gestion archi compliquée, mais qui oblige par ailleurs à une conception, à avoir une force conceptuelle très grande, ne serait-ce qu'à cause de l'inertie importante que représente tout ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire telle chose? Je suis sûr que je veux ça, parce que c'est lourd. Il y a une lourdeur, mais il y a une lourdeur qui m'oblige à, et qui me permet peut-être de mieux contrôler le temps aussi, parce que je dois penser au temps. Ne serait-ce que parce que je dois établir ma stratégie, particulièrement si mon studio n'est pas trop développé, s'il n'y a pas trop de machines, comme c'était notre cas dans un studio personnel. Moi, j'avais 3 machines, là. 2 pistes et 1 4 pistes. Donc, puis il y en a de l'épaisseur en général dans mes bandes. Donc, il fallait que je sois très stratégique dans la façon de faire. Donc, que je conceptualise énormément mon travail, que je sache où j'allais et que je développe des techniques de jeu aussi, beaucoup, 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 pour générer de la matière, etc. Il y avait toute cette dimension très ludique aussi avec le matériau. Mais il y avait un côté imprécis malgré tout là, dans le contrôle de la matière. Et le numérique a amené justement cette capacité de contrôler à l'infini, finalement, le matériau, et donc d'avoir une prise en charge plus abstraite aussi.